Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Nous sommes en France, en public, à Paris. À Radio France Fête le Livre, avec plus de 50 collégiens invités et un public d'auditeurs de l'émission. Après le Salon du Livre de Montréal, nous sommes donc à Radio France Fête le Livre. Le parrain de cette édition et invité d'honneur, c'est Tahar Benjelloun. Bonjour Tahar.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Merci d'avoir répondu présent. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. L'écrivaine Nina Bouraoui est aussi en plateau avec nous. Nous parlerons des chagrins d'amour avec son nouveau roman. Il sera question aussi de la protestation et de la jeunesse. Comment la jeune génération peut-elle protester aujourd'hui face aux injustices sociales et à la violence? La question sera posée à François Bégodeau, qui publie une BD sur les protestations de mai 68. Et puis nous sommes avec le Suisse Jean Ziegler, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Il publie un essai sur son parcours au sein de l'ONU, un livre frontal et sans concession.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et en plateau, il y a Dominique Bressoux qui est venu de Suisse jusqu'ici à Radio France Fête le Livre. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Vous êtes applaudi par le public nombreux ici dans le studio 106. Vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Tout va bien pour vous?
Tout va bien.
Très bien. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
C'est le bad boy de l'équipe, le tatoué comme on dit. Vous avez fait le déplacement aussi, vous, depuis votre librairie Goulard à Aix-en-Provence. Vous représentez la France. Vous avez l'air en pleine forme, vous êtes même bronzé, c'est parfait. En multiplex, il y a Annick Dor en Belgique dans la librairie de la Mazerine à la Hulpe et Jérémy Laniel de la librairie Carcajou à Rosemère pour le Canada. Bonjour à vous deux.
Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Bonjour Jérémy. Remis du Salon du Livre de Montréal, Jérémy?
Oui, parce qu'il faut s'en remettre, mais quand même, c'était assez intense.
Oui, c'était intense. Et si vous avez d'ailleurs manqué la semaine dernière l'émission depuis Montréal, eh bien, vous pouvez la retrouver en podcast ou balado-diffusion sur Internet. Ça vaut le détour. Il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, Tahar Benjelloun est avec nous. Donc, je vous le disais, vous êtes parrain et invité d'honneur de Radio France Fête le Livre, Tahar. Radio France Fête le Livre a été annulé l'an passé en raison de l'attentat du 13 novembre. On est là cette année. On est ravis d'ailleurs que ce soit vous, Tahar Benjelloun, invité d'honneur, car le symbole est fort. Vous venez de publier Le terrorisme expliqué à nos enfants aux éditions du Seuil. Et vous dites qu'il faut dire la vérité aux enfants. Il ne faut jamais cacher l'horreur.
Il ne faut pas leur mentir, absolument. Ouais. Et j'ai pensé à toutes ces familles, tous ces parents qui ont perdu un de leurs enfants dans cette tragédie et comment ils allaient expliquer ce qui s'est passé aux petits frères, aux petites sœurs qui restent. Et je me suis mis à la place de ces familles et c'est pour cela que j'ai essayé moi aussi de comprendre cette barbarie, comment on en arrive là, comment on arrive à tuer des innocents qui n'ont rien fait, uniquement parce qu'ils dansaient ou ils chantaient ou ils étaient en train de prendre un café un soir où il faisait doux à Paris.
Alors, vous dites qu'être civilisé, c'est être un citoyen qui accepte les règles et les lois. Et vous dites aussi que le terrorisme, ce n'est pas une pensée.
Non, c'est un moyen, c'est une technique. Dans le mot terrorisme, il y a le mot trembler en latin. C'est pour faire trembler les gens, faire créer la panique, la peur, et dominer les gens par la violence la plus abrupte, la plus sauvage. C'est ça, le terrorisme.
Alors les djihadistes, hein, vous le dites dans ce livre, Tahar Benjelloun, recrutent des jeunes qui sont dans la fragilité sociale.
Maintenant je repense à ça, parce qu'on a vu des cas absolument extraordinaires, des cas de jeunes gens, d'ailleurs qui sont convertis tout seuls, et qui a eu une éducation normale, qui ne manquait pas de... Il manquait de rien, qui n'avait pas d'échec scolaire, qui n'était pas délinquant, qui ne se droguait pas. Et puis un jour, c'est arrivé, hein, j'ai rencontré quelques mères, un jour la fille ou le garçon part en Syrie, il envoie une carte postale, j'ai trouvé enfin ma voie. Et ça c'est terrible, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, les parents les premiers, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que leur fille ou leur fils fasse cette espèce de délire et cette dérive vers la barbarie. Mmh.
Il y a aussi chez Daesh, vous l'expliquez très bien, cette capacité à communiquer sur Internet, à retourner les cerveaux en quelque sorte. Il y a dans ce grand studio 50 collégiens du collège Georges Pompidou d'Orgerus. Faut-il déjà les mettre en garde, malgré leur âge?
Ah, de toute façon, il faut commencer très tôt. La pédagogie, aussi bien contre le racisme que contre le terrorisme, doit commencer à l'école. Faire très attention aux images qu'on reçoit sur Internet, qui ne sont pas des images qu'on choisit, mais qui s'imposent. Et il y a des signaux, il y a des messages qui sont derrière ces images qu'on ne voit pas du premier coup, le premier jour. Donc il faut faire très attention avec cette technologie et qui peut amener beaucoup de bonheur, mais qui peut amener aussi beaucoup, beaucoup de malheur.
On va laisser la parole à deux libraires qui ont lu votre livre, Tara Benjelloun, avec Dominique Bressou, qui est ici en plateau à Radio France Faites le Livre. Dominique, pour la Suisse, que voulez-vous dire à Tara?
Moi, je voudrais dire que j'ai dévoré ce dialogue, que j'ai trouvé passionnant. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre livre, c'est que vous n'assénez pas votre vérité à votre enfant. Vous la laissez réfléchir, vous respectez ses demandes, et vos explications sont aussi riches que les questions sont diverses. Et puis, si je comprends bien, en fait, pour vous, l'école et les parents tiennent l'avenir dans leurs mains.
Jérémy Laniel, au Canada, qu'en pensez-vous?
Ouais, Benjelloun signe ici un livre nécessaire en ces temps où rarement la parole et la connaissance ont été si importantes. Un bémol, en revanche, la forme du dialogue avec sa fille est un peu plaquée par endroits. Il y a des relances qui sont un peu invraisemblables ou du moins chambranlantes. Mais on doit admettre qu'il s'agit d'un piège difficilement évitable pour un exercice qui était tout de même fort nécessaire.
Oui, c'est un exercice de questions-réponses, Tara Benjelloun. Alors justement, il y a cette question à un moment avec votre fille, voilà, qui soi-disant, hein, je dirais, vous pose la question, vous avez construit ce dialogue, qui vous demande en fait si il n'y aurait pas eu besoin que les musulmans affirment leur opposition, leur solidarité aussi. Est-ce que ça a été assez suffisamment fait, ça? Parce qu'après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher, il y a eu 67 personnalités du monde musulman qui ont publié un appel. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, après l'attentat de Nice, que les artistes, notamment les écrivains musulmans, juifs, catholiques, se réunissent dans l'indivision pour porter une parole?
Mais d'abord, ça s'est passé en été, et c'est le temps des vacances. Finalement, on ne peut pas réunir tellement les gens. Mais l'idée même de se réunir et de parler et de témoigner était nécessaire. Malheureusement, nous vivons toujours dans un moment de grande tension, un moment de menace, et ça peut arriver un jour ou l'autre. Il va falloir effectivement penser à réunir les bonnes volontés, réunir les gens conscients et parler entre nous et parler pour éviter d'autres catastrophes.
Voilà, je le dis parce que vous avez publié juste après Nice une tribune dans Le Monde qui a été très commentée, mais vous avez été quasiment le seul. Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
Alors nous parlerons de vos chemins d'espérance tout à l'heure avec votre parcours à l'ONU. Je vais vous poser la question sans détour. Les musulmans sont-ils assez clairs dans la condamnation des actes terroristes menés par les djihadistes?
Certainement. Enfin, les musulmans que je connais, les ambassadeurs maghrébins, moyen-orientaux, etc., la parole est absolument claire. Enfin, il n'y a pas une différence dans la perception de l'horreur djihadiste entre les musulmans. Je ne peux pas parler des musulmans, il y a un milliard. Mais les musulmans que je connais, que je fréquente aux Nations Unies, ou des musulmans, des universitaires qui sont mes amis personnels depuis très très longtemps, ils réagissent exactement au millimètre près, comme vous, comme moi, comme tout homme, toute femme de conscience, de raison, absolument hostile au meurtre de masse.
Très bien. Tara Benjelloun, vous faites d'ailleurs des propositions très claires dans ce livre pour lutter contre le terrorisme islamique. Éducation, prison, mosquée, famille, laïcité. Vous abordez ces cinq thématiques. Le terrorisme expliqué à nos enfants est paru aux éditions du Seuil. Vous restez bien sûr avec nous, Tara Benjelloun. Vous pouvez l'applaudir. Tara Benjelloun, mesdames, messieurs.
Merci.
Et on parlera tout à l'heure de la jeunesse et de la protestation avec vous, Tahar, et avec François Bégodeau. Et bonjour Nina Bouraoui.
Bonjour.
Nous allons parler d'amour à présent avec votre nouveau roman, Beau Rivage, publié chez Jean-Claude Lattès. Votre narratrice se fait plaquer par Adrian, un bel homme suisse, une semaine après l'attentat d'ailleurs de Charlie Hebdo. Il se dit que ce n'est pas son pays, ça ne le concerne pas tant que ça finalement. Il prend ce prétexte absolument abject pour la quitter en fait.
C'est pas la principale raison, mais il se trouve que cette histoire est prise dans ce segment. La défaite amoureuse arrive en effet après les attentats de Charlie Lippercacher, et j'allais dire la renaissance va arriver hélas avec le 13 novembre. Pour moi c'était important parce que dans la réalité ça s'est passé ainsi. Ce n'est pas mon histoire, mais c'est d'après une histoire vraie, et c'est vrai que cette période tellement troublée, tellement violente, tellement agressive que nous avons tous vécu, moi déjà en tant que parisienne et puis après en tant qu'être humain, tous, a fait que les relations entre les gens ont été troublées et nous avons une urgence à aimer ou à ne plus aimer. Tout d'un coup, c'est ce qu'on appelle, je crois, le principe de réalité. Les épreuves nous mettent au pied du mur. Et donc, cette histoire, c'était intéressant de par sa vérité, mais aussi d'un point de vue presque métaphysique, se dire la placer dans ce moment-là, c'était important de se dire que les événements extérieurs peuvent créer des séismes intérieurs.
Alors la pauvre femme va dépérir, hein, c'est très douloureux, une rupture après 8 ans de relation, elle se demande comment elle va pouvoir vivre sans lui. C'est ça la première question qu'on se pose, Nina Mohraoui, la vie sans l'autre ?
Moi, je voulais vraiment d'abord raconter un chagrin d'amour dans ce qu'il a de plus universel. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les grands amoureux, hélas, quand ils perdent celui qui les adorait, ont ces étapes, doivent franchir ces étapes de colère, de haine, de désespérance. Et j'ai toujours dit que j'avais beaucoup d'admiration et beaucoup de compassion pour les fragiles, ouais, pour les quittés, pour ceux qui tombent à terre, et beaucoup d'admiration pour tous les moyens qu'ils vont mettre en place à la fois pour sombrer et puis se, ouais, défendre et voilà, et remonter. Et finalement, la question du livre, c'est qu'est-ce que l'amour, ouais, pourquoi c'est si difficile, non, quand,
d'accord,
on perd.
Vous avez été quittée, vous, Nina, ou...
Oui, bien, ouais, sûr, j'ai, ah, été, oui, quittée, j'ai quitté, oui, comme tout le monde. Mais comme,
ah, vous avez quitté.
Mais comme tous les amoureux, heureusement, je pense qu'on passe tous... c'est une
on
leçon.
Passe notre temps à se
non,
quitter,
mais c'est
ça
une leçon, c'est un enseignement, ouais, je trouve. Je suis toujours étonnée quand les gens n'ont pas de chagrin d'amour.
Vous savez qu'il y en a, ça existe.
C'est louche.
Les monstres n'ont pas eu.
D'accord, les monstres, voilà.
Non, mais... Message à tous ceux qui n'ont pas eu de chagrin d'amour. Vous êtes des monstres.
C'est un très beau livre, moi j'ai adoré. J'avais lu ça au mois de juin et j'ai trouvé que c'était un très beau livre sur la douleur.
Ouais. On va écouter la BO du roman, Nina Mohraoui, pour se mettre dans l'ambiance de votre livre. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux votre roman, comme au cinéma. Et vous avez choisi Ben Howard avec Small Things. On écoute un extrait et vous nous expliquez. Pourquoi ce titre, Nina Mohraoui, de Ben Howard ?
Parce que je trouve que c'est un titre extrêmement mélancolique. Je ne vais pas raconter la chanson parce que voilà, il s'agit de petites choses qui vont l'entourer. Il parle de la fin du monde. Dans le livre, on est aussi dans la fin du monde puisque c'est la fin de ce Paris léger, joyeux qu'on nous a arraché à plusieurs reprises, et puis la fin du monde, du propre monde de mon héroïne. Et un chagrin d'amour, c'est un rapport à la temporalité qui est totalement changé. On devient totalement obsessionnel. Et il se trouve que cette chanson, à l'extérieur du livre, passait en boucle dans la vie de l'héroïne. Donc c'était, voilà, un petit clin d'œil à mon personnage.
Alors c'est vrai que la rupture amoureuse nous plonge dans le marasme. On n'a plus le goût à rien. On se replie quand on est dans cette douleur. On rejette les autres. Qu'est-ce qui peut nous aider alors ? Parce que quand on va dans des lieux, d'ailleurs, qu'on connaît à deux, c'est difficile d'y retourner.
C'est très dur parce que tout d'un coup, les vêtements qu'on portait avec l'autre deviennent importables. Le parfum qu'on respirait devient irrespirable. Les restaurants, les bars, les rues, la ville, tout est emprunt. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'amour est une invasion. Et quand on le perd, la ville devient une agression. Je crois qu'il n'y a que le temps, hélas.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il n'y a,
ouais,
que le temps. Mais ce qui est atroce aussi, c'est que lorsqu'on est dans une épreuve, dans un chagrin, le temps est élastique et on se dit qu'on n'arrivera jamais. Alors on ressasse. Ouais. On doit avoir des amis très patients, ça c'est important, parce qu'on est obsessionnel, on n'écoute pas les conseils, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, mon héroïne va se reconnecter toujours à ce blog de sa rivale, parce que finalement, je crois qu'aussi... il faut habiter la cruauté pour pouvoir la quitter.
Adrien ne veut pas d'histoire. Il est parti avec une autre, mais il ne veut pas d'histoire. Le Suisse est neutre, dites-vous. Je regarde Jean Ziegler qui est très attentif.
Il y a l'arc.
Et de toute façon, il sera toujours là pour elle, car c'est une belle personne. Ce sont des phrases que vous aimez beaucoup, ça.
Oui, oui. Non, mais parce que j'ai voulu aussi relever toutes les petites lâchetés que nous avons tous. Il n'est pas du tout, ce n'est pas un personnage de salaud, hein, pas du tout.
Non, il est neutre, c'est tout.
Oui, mais c'est pas parce qu'il est suisse. C'est parce qu'il quitte.
Mais vous dites que c'est parce qu'il est suisse.
Non, mais parce que lui, tout d'un coup, le drame parisien le concerne et le concerne plus. Il est gêné.
Bon, trois libraires ont lu votre roman, Nina Bouraoui. France, Belgique, Suisse, on commence par qui ?
France.
France, Mathieu Colombe.
Alors, moi, j'ai été un petit peu embêté avec ce roman. Parce que d'un côté, c'est vraiment pas ma littérature. J'aime vraiment pas ça. Donc, je me suis assez ennuyé à la lecture.
Ça commence bien.
Oui, mais... il y a une écriture, déjà, d'une part, et ensuite, force m'est d'admettre que tout ça est vraiment criant de vérité, et comme Emmanuel l'a fait remarquer, ça sent un peu le vécu par moment. Et je trouve que c'est vraiment un roman hyper réaliste sur la rupture. Donc si c'est votre genre de littérature, il faut vraiment lire ce bouquin, parce qu'il est fortement bien fait.
Annick Dor, en Belgique, êtes-vous d'accord ?
Oui, en partie. Enfin, moi, j'ai été sensible à cette histoire parce que je trouve qu'en effet, elle sonne très vraie. Donc là, je suis d'accord. On sent vraiment tout le talent de romancière derrière chaque sentiment évoqué. Donc le roman fonctionne vraiment parfaitement bien. Le seul petit bémol, je trouve, c'est que le sujet, voilà, il est déjà traité en littérature et n'est pas franchement hyper original. Mais ce qu'il a en revanche plus, c'est l'analyse, je trouvais, du lien addictif qui lie la narratrice justement à ses réseaux sociaux. Voilà. Donc dans l'ensemble, moi, je trouve que ça se lit avec beaucoup de bonheur.
Et Dominique Bressot pour la Suisse prend des notes à côté de vous, Nina Bouraoui.
Oui, parce que en l'écoutant, j'ai changé d'avis.
Ah, c'est vrai. <Un petit peu. rire> Oui, d'accord.
Non, mais en fait, quand j'avais refermé le livre, j'étais vraiment perplexe devant l'immensité de la souffrance de l'héroïne par rapport à la fin d'une relation avec ce type qui n'était pas très très gentil, quoi. Mais en fait, ce qui m'a rendue vraiment, qui m'a vraiment perturbée, c'était la description de ces femmes qui haïssent la précédente et qui exècrent la suivante dans le cœur de l'homme qu'elles aiment. Et c'est en fait avec une plume scarificatrice, vous écrivez un roman très fort au puissant effet miroir.
Merci, mais je voulais être chirurgien, donc je pense que ça doit être ça. C'est réussi, je me suis vengée.
C'est au scalpel. Bon, c'est un roman plutôt délicat, hein, Nina Bouraoui, si je peux me permettre. Vous expliquez qu'une rupture amoureuse nous connecte toujours à des abandons plus anciens. C'est ça le souci aussi.
Ben oui, parce que je crois qu'on redevient l'enfant nu, l'enfant qui ne sait pas s'il a été aimé, s'il a été désiré. On se reconnecte à nos peurs les plus anciennes. Et puis finalement, perdre un amour, c'est flirter avec le vide, c'est côtoyer les abîmes, et c'est nous reconnecter à la mort et retomber amoureux. C'est justement, pendant un laps de temps, pendant cette hypnose amoureuse, c'est ne plus avoir peur, c'est ne plus avoir soif, c'est ne plus avoir faim. Et je crois qu'aussi, finalement, quand je parle d'amour, je ne parle pas uniquement d'amour amoureux. Je crois que l'amour aujourd'hui est peut-être la seule réponse à la barbarie. Et je parle de la bienveillance. Je pense que nous avons tous, aujourd'hui, c'est peut-être un peu naïf, mais nous avons tous pris conscience que nous avions un devoir de bienveillance les uns envers les autres.
Tara Benjelloun, vous voulez réagir?
Juste, je fais une proposition. Il ne faut plus dire tomber amoureux, mais s'élever amoureux.
C'est vrai, tu as raison, c'est vrai.
Comment fait-on pour s'élever amoureux? Alors que diriez-vous aux jeunes qui sont là au collège, dans le public?
Moi je dirais qu'il ne faut jamais avoir honte de ses amours, quels qu'ils soient. Je sais que c'est une période, l'adolescence est une période fragile, où un chagrin d'amour peut vous écraser. Lorsqu'on est différent, lorsqu'on a des amours homosexuels, ça peut être très difficile. Je pensais que ça ne l'était plus, mais apparemment aujourd'hui, il y a une sorte de nuage un peu pestilentiel qui traîne au-dessus de nos têtes. Et moi, je me souviens de mon adolescence où c'était compliqué. Lorsqu'on était différent, on rasait les murs. Et je trouve que c'est vraiment la période où le cœur est totalement désarmé. Il faut être fier de soi parce que seul l'amour nous élève. On ne peut avoir honte que de la haine.
Très bien, merci beaucoup Nina Bouraoui. Vous pouvez l'applaudir. Nina Bouraoui, Bon Rivage, aux éditions Jean-Claude Mathès. Voilà, je montre ce roman au public. Ça s'est bien passé pour vous cette fois?
Très bien, je suis ravie.
C'est déjà arrivé que ce soit moins bien. Hein,
oui, mais on n'est jamais fâché en fait.
C'est vrai, on est bienveillant, vous voyez.
Voilà.
Quoi qu'il arrive. Bon, merci beaucoup Nina Bouraoui. Vous signez d'ailleurs votre livre ce dimanche à Radio France. Faites le livre. À suivre, donc, nous serons avec François Bégodeau et toujours avec Tara Benjelloun et Jean Ziegler juste après. Voici Les Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell en duo avec Serge Gainsbourg dans la librairie francophone.
Je serai content quand tu seras mort, vieille canaille.
Ah oui.
Et je serai content quand tu seras mort, vieille canaille. Oh. Tu ne peux rien pour attendre. Je saurais bien te descendre.
Mon Dieu,
je serais content d'avoir ta peau, vieux chameau.
Ah bon, mais pardon, moi, tu veux. Je t'ai reçu à bras ouverts, vieille canaille.
C'est fait.
Il y avait toujours ton couvert, vieille canaille.
Oui.
T'as brûlé tous mes tapis,
t'as même
fumé dans mon lit, t'as sifflé tout mon whisky,
vieux mari. Puis, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille.
Un canon.
Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille.
C'est vrai.
Fumier, tu as fait du baratin.
Mm-hmm.
Tu l'as embrassé dans les coins.
Et ailleurs.
Dès que j'avais tourné le dos. Et le chameau.
Mais je suis parti avec elle, vieille canaille.
Ouais, je sais.
Oui, je suis parti avec elle. Oh. En apportant la vaisselle, le cylindre à terre, tes cassettes au magnéto, vieux chameau!
Fumier, fumier, ordure, etc. Sorti mon fusil, vieille canaille.
Ah ah.
Ouais, j'ai sorti mon fusil, vieille canaille.
Aïe, aïe, aïe.
Et quand je te tiendrai au bout, je rigolerai un bon coup.
Pas moi.
Et je t'aurai vite refroidi, vieux bandit.
Mais on te mettra dans une dent,
ah bon,
vieille canaille, vieille,
ah bon,
vieille, vieille, vieille canaille.
Et moi, je vais faire la bombe, vieille canaille.
Ça m'étonne pas. À coup de petite paire de filles,
la plus belle cuite de ma vie
sera pour tes funérailles, vieille canaille.
Les Vieilles Canailles, Mitchell et Gainsbourg sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS La Première.
RTBF La Première.
Ici Radio-Canada Première.
France Inter.
Et nous sommes à Radio France Faites le Livre à Paris en public avec un collège, mais aussi le public de la librairie francophone. Merci d'être avec nous. Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. Coup de gueule ou coup de cœur, c'est le principe cette saison. Et on part tout de suite en Belgique avec Annick Dor, avec un coup de gueule ou un coup de cœur, Annick?
Avec un coup de cœur pour un premier roman signé Jean-Sébastien Poncelet et intitulé La tendresse des séquoias. Alors c'est à Bruxelles que nous entraîne l'auteur dans une enquête palpitante où il est beaucoup question d'art. Alors juste pour vous donner l'eau à la bouche, le point de départ c'est une gigantesque fresque murale qui couvre une cinquantaine de maisons et qui a été taguée en catimini en pleine nuit. Donc un roman rondement mené tout au long de ses 506 pages.
Ah oui quand même, La tendresse des séquoias de Jean-Sébastien Poncelet. Merci beaucoup Annick. On va dans le rayon des polars avec Mathieu Colombe pour la France. Coup de gueule ou coup de cœur, Mathieu?
Alors, coup de cœur total et absolu, cette fois-ci. On va parler de Cabossé, de Benoît Philippon, qui est un roman noir, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est, Cabossé? C'est une belle histoire d'amour, c'est un road movie, servi avec des dents cassées, beaucoup de sang, des révélations absolument abominables, des personnages complètement barges, et surtout, un truc absolument fantastique, une écriture complètement ciselée, très réfléchi, un peu comme un coup de baramine dans l'estomac. Une merveille.
C'est violent, quoi.
Un petit peu, mais pas que.
C'est mais vous aimez aussi. Bien les romans.
Oui, violents. C'est assez plaisant. Oui.
Vous êtes un sadique, en fait.
Non, mais j'aime bien. Enfin, voilà, j'aime bien.
Cabossé, c'est chez Gallimard, série noire.
Hein. Oui, série noire.
Oui, quand même. Ouais. Oui, bien. Très bien. Merci, Mathieu. On va dans le rayon des essais avec Jérémy Lagnel au Canada. Jérémy.
Oui, coup de gueule, Emmanuel. C'est surtout sur cet appétit éditorial du fait divers, plus glauque et plus sordide l'un que l'autre. Prenons un exemple récent, l'enlèvement de Carl Rocheteau, ça a été publié aux éditions de La Mortagne, où l'auteur relate l'enlèvement de sa sœur à l'âge de 8 ans, il y a plus de 30 ans à Montréal. Mais ici, hein, bien peu de littérature et de réflexion, et j'ai bien du mal à parler d'un réel devoir de mémoire. J'y vois plutôt un autre brique à l'édifice du voyeurisme morbide de bas étage vivant à souvir une soif de réel créée vraiment de toutes pièces, malheureusement.
L'antithèse de la chronique de Mathieu Colomb. Vous n'avez pas du tout les mêmes goûts, en fait. Hein, ça ne marche non, pas du tout. Bon, l'enlèvement, quand même, si ça vous tente, c'est aux éditions de Mortagne. Merci beaucoup, Jérémy. Dominique Bressou pour La Suisse. Vous avez une formidable BD à nous présenter, paraît-il.
Absolument. Alors là, ce n'est pas un coup de cœur, c'est carrément le coup de foudre. C'est pour une BD de Zep.
Ah oui.
Loin des titeufs habituels.
Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui.
On assiste à la rencontre dans un train d'un moine chartreux forcé d'aller à Paris et d'une jeune femme condamnée par la maladie. C'est doux, c'est tendre, ça vous oblige à réfléchir en toute sérénité sur le sens de la vie. Alors si vous ne lisez qu'une bande dessinée en 10 ans, eh ben, c'est celle-là. C'est Un bruit étrange et beau de Zep, à l'éditeur, c'est Rue de Sèvres.
Très bien, il y a une autre BD qui arrive, c'est celle de François Bégaudeau quand même, à lire en 10 ans.
Pardon, deux. Ouais, alors...
Il y en a deux. Et Zep, on va fêter Noël avec lui pour une émission spéciale. Il sera sur le plateau avec nous pour une émission de Noël. Merci Dominique.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Depuis Radio France, Faites le livre, on retrouve sur notre plateau du studio 106 de la Maison de la Radio François Bégaudeau en public, donc avec le collège Georges Pompidou d'Orgerus. Qui fait partie du public aujourd'hui. Bonjour François Bégaudeau.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Comment allez-vous?
Mais très bien, et vous?
Bien, ça va. Écoutez, Tahar Ben Jelloun est invité d'honneur de cette fête du livre à Radio France. Il est aussi avec nous. Alors François, vous avez publié avec Élodie Durand une BD chez la belle maison Delcourt. Wonder raconte l'émancipation d'une jeune fille en mai 68. Les ouvriers et les étudiants descendent dans la rue en France à ce moment-là. Elle travaille pour une usine de piles, les piles Wonder. Elle loge dans une chambre de bonne. On imagine qu'elle vient d'un milieu très modeste. Ce qui ne lui a pas vraiment laissé le choix. Que lui apporte cette protestation de mai 68?
Bah, vous avez prononcé le mot-clé, c'est l'émancipation. Alors l'émancipation, c'est pas l'éducation. L'émancipation consiste à s'arracher à des carcans, à des coercitions, à des choses qui nous empêchent, qui nous répriment. Alors bah, y a plusieurs choses qui la répriment. Par exemple l'usine, les horaires qu'on lui impose, le travail dégueulasse qu'on lui impose de faire, dégueulasse vraiment au sens littéral. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas galvaudé. Il y a tout un tas de comme ça de chaînes dont le mouvement de 68 va contribuer à la libérer, en tout cas provisoirement, j'espère durablement, mais ça la fin de l'album ne le dit pas.
Et l'art, la musique, les amis, il en est question dans cette BD, ça ne suffit pas pour décloisonner la vie?
Je crois qu'il faut un peu de tout. En fait, cet album, c'est beaucoup construit. Voilà, je parcours le mois de 68. C'est vrai, en le fantasmant beaucoup, mais aussi en me nourrissant de documents. Et j'ai essayé un petit peu d'aligner une succession d'éléments qui peuvent concourir à vous émanciper dans la vie. Alors, il peut y avoir un mouvement politique, et dans mouvement, il y a mouvement, hein, vous mettez en mouvement la manifestation, les émeutes, tout ça, ça peut déjà créer un tourbillon en vous. Il y a les rencontres sexuelles, les rencontres avec des intellectuels, même si elle est un peu heurtée dans l'album. Il y a tout un tas de choses, quoi. Il y a une camaraderie qui se noue aussi dans un squat, disons une espèce de communauté qui s'invente comme ça à ce moment-là. Oui, je crois que c'est un peu ce genre de choses qui sont arrivées aux 68 arts en live.
Quand j'ai vu ce livre, franchement, pour être honnête, François, avant de le lire, je me suis dit encore un livre sur mai 68. Mmh. Sauf que, bon, c'est vrai que le vôtre, il sonne très actuel. Comme si vous disiez, il est temps pour la jeunesse de protester. C'est un livre de gauchiste, ça, François Bégaudeau?
Bah, tous mes livres sont des livres de gauchistes.
Bah, c'est ce qu'on dit, pareil.
Puisqu'on se refait pas. Mais, je sais pas. Non. D'abord, je pense pas qu'il y ait tant de livres que ça sur 68, figurez-vous.
Oh, il y en a pas mal.
Eh ben, en fait, je crois pas qu'il y ait énormément.
Je vais vous sortir la liste. Non, pas. Des BD peut-être pas, mais des livres.
En tout cas, je suis très frustré, moi, en tant que très attentif à 68 depuis toujours, alors que je ne l'ai pas connu. Je suis en 71, mais c'est vraiment une séquence qui me fascine, qui m'intéresse beaucoup et qui m'a beaucoup construit, comme on dit. Et par exemple, on parle assez peu du fait que, on en parle bien sûr, mais assez peu, du fait que c'est d'abord une grève ouvrière, 68. Non, évidemment, c'est déclenché par les étudiants, mais 68 n'a été 68. 68 et un mouvement massif qui a bloqué la France que dans la mesure où la classe ouvrière s'est mise en grève. Mmh, hein. Mmh. Donc, je trouve qu'il y a une rétrospection sur mai 68 qui met toujours un peu en avant le fait de ces jeunes étudiants bourgeois qui voulaient s'éclater et qui, par la suite, sont devenus publicitaires. Mmh. Moi, je voulais rendre justice, je dirais, au parcours ouvrier qu'il y a eu pendant ce mois-là.
Et dans ce contexte social difficile, avec en toile de fond, on en parlait tout à l'heure avec Tara Benjelloun, la violence et le terrorisme, quelle est la marge de protestation ? Sur quoi faut-il protester ?
Franchement, honnêtement, je crois que la question... Si on parle de protestation, hein, si c'est de ça que vous voulez me faire parler...
C'est un peu le sujet, oui.
Si vous voulez me faire parler de subversion politique, de contestation, de tout protestation. Ça et d'émancipation. Oui. Alors, c'est sûrement pas du terrorisme qu'il faut me parler. La question sociale...
Je dis dans ce contexte-là.
La question sociale, actuellement, oui. Elle est précisément pas celle-là. Et je pense que, du point de vue... Moi, je comprends qu'on parle de terrorisme, hein, évidemment. Hein, nous sommes tous un peu effrayés par cette affaire, un peu traumatisés, un peu fascinés.
C'est plus qu'une affaire, François.
J'entends bien. Mais il est évident que, du point de vue de la question sociale, je veux dire, une des premières victimes, je dirais, de la séquence terroriste dans laquelle on est, c'est la question sociale, qui est justement peu traitée, finalement, mise au second plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il arrive aux classes populaires dans ce pays en ce moment ? Et comment est-il possible que les classes populaires puissent s'émanciper du sort qui leur est fait ?
Alors, Tara Benjelloun, justement, dans votre livre, vous parlez des banlieues françaises. Vous dites qu'il est temps de s'en occuper, qu'il faut aussi éduquer, on en parlait aussi tout à l'heure, éduquer sur le racisme, contre l'antisémitisme, réaliser aussi que toute religion contient, je cite, une part de violence.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça, il faut le rappeler. Et l'éducation, c'est le début du tout. Et l'éducation n'est pas uniquement à l'école, mais aussi dans la famille, dans l'environnement dans lequel nous vivons. J'aime bien lorsque François Bégaudeau parle de classe populaire. C'est un terme qu'on n'utilise plus du tout. Il n'y a aucun homme politique ces derniers temps, là, où il y a eu beaucoup de discours politiques, qui a parlé de peuple ou de classe populaire ou de lutte de classe. Or, la lutte de classe n'a pas été effacée magiquement. Elle existe toujours.
François Bégaudeau.
On est bien d'accord. C'est ce que j'essayais de dire. Je pense qu'il y a, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait cet album aussi. Je voulais remettre au centre, en tout cas de mon travail à moi, et puis que les lecteurs me suivent s'ils ont envie, la question de classe, justement, qui me paraît occultée par tout un tas de choses. Par exemple, vous parlez de jeunesse. C'est intéressant, la jeunesse, mais moi qui m'intéresse à la jeunesse, comme tout à chacun.
Vous étiez prof déjà, oui.
Oui, enfin, on n'est pas forcément prof aussi pour s'intéresser à la jeunesse, mais ça,
j'espère que oui.
On fera une émission pour en parler. Mais non, mais je veux dire, c'est une courte vue. Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait.
Bon, on a des profs dans la salle, là, on verra.
La question de la jeunesse, je pense, recouvre toujours la question de classe. Elle est une des choses, un des éléments qui est beaucoup mis en avant, la jeunesse, inquiétée de la jeunesse, que va devenir la jeunesse. Et je crois qu'en fait, à force de parler de jeunesse, on parle pas de classe, justement. Parce qu'il y a jeunesse et jeunesse, les gens qui naissent dans les quartiers, par exemple, populaires, ou les gens qui naissent dans les milieux ruraux un peu défavorisés, ou etc., ben, c'est pas les mêmes jeunes que ceux qui naissent là où moi je suis né, par exemple. Moi, j'étais un jeune petit bourgeois. Ben, je veux dire, j'ai pas eu la même jeunesse que les types qui habitaient dans la périphérie de Nantes. Donc, moi, je suis pour qu'on mette un tout petit peu au second plan ces affaires de jeunesse générationnelle et qu'on remette effectivement au centre la question de classe. Oui.
La question de classe, c'est la question du désir et de l'envie. Il est question dans cette BD du désir et de l'envie. Il faut, selon l'un de vos personnages, distinguer le scrupule du vrai désir. Ça commence par là aussi, la liberté et l'émancipation.
Oui, effectivement, René, mon ouvrière, c'est vraiment un portrait d'ouvrière. Je suis inspiré d'ailleurs d'une figure réelle. Elle est empêchée. Je veux dire, elle a quelque chose de fondamentalement inhibé. Mmh. Et par exemple, la honte. La honte de s'écouter soi-même, la honte de ses propres désirs. Je veux dire, alors les féministes disaient à l'époque, il faut rien lâcher sur son désir. Ça, c'était une très belle phrase. Ne rien lâcher sur son désir.
Jean Ziegler, la protestation, vous connaissez bien parce que vous l'avez pratiquée toute votre vie au plus haut niveau. Qu'est-ce qui marche le mieux, Jean Ziegler, la protestation ou la diplomatie ?
Les deux, il faut faire l'intégration subversive, c'est ce que je pratique aux Nations Unies.
Oui, voilà. L'un ne va pas sans l'autre, jamais.
Les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes. Et je crois que mon voisin est un révolutionnaire dans le sens du Che Guevara.
Non, je suis seulement opportuniste, moi j'ai aucun principe.
aucun principe. La lutte de classe est une évidence absolue. 1% de la population du monde a autant de fortune aujourd'hui que 99% de la population du monde. La misère ravage cette planète, la guerre ravage cette planète, une lutte de classe des riches contre les pauvres, d'en haut, est en cours et s'amplifie et s'aggrave tous les jours. Donc la résistance, l'insurrection des consciences, l'organisation populaire est plus nécessaire, plus urgente que jamais. avant que cette planète implose complètement.
Alors vous dites d'ailleurs qu'on pourrait mettre dans un bus tous les riches et que ce serait l'équivalent du PIB de dizaines, de centaines de pays. Juste dans un bus.
Si on prend les 85 personnes les plus riches de la Terre, on les met dans un bus, vous cumulez une fortune qui vaut celle de 3,5 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire incroyable. Exactement la moitié de l'humanité doit se contenter d'autant de biens qu'ont les 85 personnes les plus riches de la Terre. L'inégalité, la misère faite, l'exploitation, domination de l'homme sur l'homme est le scandale absolu de notre temps.
On va poursuivre cette conversation avec vous, Jean Ziegler. Merci beaucoup, François Bégodeau. Merci. Je vous laisse car vous allez signer votre livre, votre bande dessinée réalisée avec Élodie Durand, parue chez Delcourt. Et puis, vous avez aussi un nouveau roman qui est sorti à la rentrée, Molécule, chez Vertical, que vous signez aussi, je suppose.
Oui.
Très bien. Merci, François.
Merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt.
On poursuit cette émission avec Jean Ziegler et le chanteur de rap Booba qui rend hommage à l'Afrique avec la Cora de Sidiki Diabaté sur votre radio francophone.
C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai pas baillé, baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon blessé sur le palier. Comme entre Dieu, mais oh, j'suis médaillé. Pas mon os négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne. Même noir, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moula l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamako, ça FL, Omar, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le haut. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs.
Booba avec DKR sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et nous sommes à Radio France Faites le Livre en public au studio 106 avec un plateau d'invités éclectiques, Nina Bouraoui, Tahar Benjelloun, François Bégodeau et donc Jean Ziegler qui est dans la librairie francophone avec ce nouveau livre Chemin d'espérance. Vous racontez votre parcours au sein de l'ONU, Jean Ziegler. Vous avez été rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, puis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. C'est un livre très dense, un vrai exercice pédagogique. On ne va pas pouvoir tout aborder, hein. Il faudrait 3 heures d'entretien, mais commençons quand même par un constat que vous faites en ouverture. L'ONU a échoué dans sa mission principale, empêcher les guerres.
Oui, l'ONU a 71 ans maintenant. Elle a été créée à la sortie de la boucherie de la Deuxième Guerre mondiale pour changer, pour créer un monde totalement nouveau qui a 3 tâches, combattre la misère, protéger les droits de l'homme pour chaque être humain sur Terre et surtout assurer la sécurité collective, bannir la guerre. Or, tous les 5 secondes, un enfant de sous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. Donc, la misère sur cette planète est totalement effroyable. Un enfant qui meurt de faim maintenant est assassiné. Et ensuite, il y a votre question, la guerre qui ravage cette planète. Si vous pensez que c'est effroyable, boucherie de la Syrie, il n'y a aucun casque bleu, aucun corridor humanitaire, aucune interdictions de vol sont des interdictions. Les Nations Unies sont totalement, complètement absents. Et des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, comme vous et moi, sont massacrés en Syrie, au Darfour et ailleurs dans le monde.
Alors justement, vous affirmez qu'en 2016, il y a eu dans le monde 54 millions de morts sur des champs de bataille. Comment vous faites vos calculs, 54 millions ?
C'est pas moi qui fais le calcul, c'est les Nations Unies. Vous savez que les Nations Unies sont une immense organisation complexe. Il y a les Nations Unies proprement dites, plus les 23 organisations spécialisées pour la santé, pour le travail, le programme alimentaire mondial, etc., etc., qui doivent faire leur rapport de gestion, présenter leur rapport de gestion tous les mois de juin devant le Conseil économique et social.
Mais comment on arrive à 54 millions ?
Alors, on arrive, si vous prenez l'ensemble des victimes produites par la faim, par l'eau polluée, par les épidémies depuis longtemps vaincues par la médecine, par les guerres qui sont en cours, pour l'année dernière, vous arrivez à 57 millions de victimes. Or, la Deuxième Guerre mondiale, en 6 ans, victimes militaires et civiles...
57 millions en 6 ans, pour la Seconde
57
Guerre mondiale.
57 millions en 6 ans. Tous les fléaux, toutes ces tragédies qui affectent aujourd'hui l'humanité ont fait 54 millions de morts, donc presque la même chose que la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, la Troisième Guerre mondiale contre les peuples du Sud a commencé depuis longtemps. Et donc, il faut abattre cet ordre cannibale du monde. Et nous pouvons le faire.
L'ONU a fixé dans son agenda 2030 un objectif, en finir avec la faim. Alors ça fait très longtemps qu'on entend ça. C'est une utopie envisageable, ça, ou c'est juste de la communication ?
Non, il faut... Je pense que... D'abord, les Nations Unies savent faire une chose, c'est les statistiques. C'est les statistiques. Ils savent faire la paix, mais ils savent la statistique. Et le monde tel qu'il le dessine, par exemple, par rapport à la faim... est contesté par personne. Je répète ce chiffre effroyable. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates sur une planète qui pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains, presque le double de la population actuelle. Autrement, le problème, il n'y a aucune fatalité aujourd'hui. Le problème est l'accès à la nourriture et pas l'insuffisante production. Un enfant qui meurt de faim aujourd'hui, maintenant où nous parlons, est assassiné. Alors,
ça, vous le dites depuis très longtemps, depuis que vous avez fait ces ouvrages sur la faim dans le monde. Mais c'est vraiment votre argument.
Je ne rabote pas.
Mais c'est très important de le dire, oui, effectivement. Un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné.
Le massacre quotidien.
Bien sûr, mais vous avez raison, tout à fait. Mais on cautionne tout à fait ça. Juste avant de donner la parole au libraire, Jean Ziegler.
Le massacre est le scandale absolu de notre temps. Et nous pourrions... La faim est faite de main d'homme. La spéculation boursière sur les aliments de base, etc., et peut-être supprimée demain matin par des réformes démocratiques, constitutionnelles, pacifiques dans les pays dominateurs. Tout dépend de nous.
Alors, juste avant de donner la parole au libraire, je voulais relever un passage du livre qui est plutôt inattendu, Jean Ziegler. Une confidence très personnelle que vous faites sur 2 pages, qui n'a a priori rien à voir avec le reste. Vous expliquez que vous avez peur de la mort. Vous qui l'avez côtoyé, mais vous l'avez tant côtoyé sur les conflits mondiaux, quand vous parlez de la faim dans le monde, vous avez vu les horreurs, des horreurs absolues, et vous vous étendez sur la peur que vous avez de la mort.
J'ai peur de la mort comme tout le monde, pas parce que je suis assez âgé maintenant, mais chaque jour qui passe ne revient pas, est unique, et donc la seule chose qu'on peut faire contre la mort, et je crois à la résurrection personnellement, c'est accumuler autant de sens possible pour que la mort vienne et que notre corps cesse de fonctionner, on puisse opposer à ce néant, qui n'est pas un vrai néant, autant de sens possible produit durant la vie. C'est la seule façon, je crois, que de vaincre cette angoisse qui est commune, je pense, à tout le monde.
On va aller voir du côté de Jérémy Laniel, qui est au Canada et qui a lu votre livre, Jean Ziegler. Jérémy, que pensez-vous de ce livre ?
Oui, le passage dont vous parlez, ces 2 pages sur la mort sont vraiment 2 sublimes pages de ce livre. C'est un livre qui comporte une bonne dose de voyeurisme diplomatique, délectable pour quiconque s'y intéressant, tout en n'étant pas que ça. Ziegler cerne habilement les grands enjeux qui l'ont habité, qui l'habitent encore avec une ferveur indéniable. J'en viens par contre à me demander à quel point le lecteur néophyte de l'appareil onusien saura s'y démêler sans trop de difficultés.
Mathieu Colombe en France, vous le néophyte onusien.
Eh bien justement, justement, c'est quand même une sacrée leçon que nous donne Jean Ziegler, mais c'est vrai qu'il ne faut pas attaquer ces chemins d'espérance sans y consacrer un maximum de son attention, tant l'écriture est dense, les informations nombreuses. Alors effectivement, on est entre le récit et l'essai, on est entre l'autobiographie et l'historique, mais en tous les cas, il y a une telle générosité d'informations, de détails, qu'on en est, on peut en rester quand même très impressionné.
Voilà, Jean Ziegler, un troisième libraire qui arrive à la fin de cet entretien.
Merci aux libraires. Alors
après avoir listé les échecs de l'ONU, vous reconnaissez toutefois certaines réussites, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, qui a permis de nourrir 91 millions de personnes dans le monde, mais aussi le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Aujourd'hui, avec la crise migratoire, où est-il ce HCR? Qu'est-ce qu'il fait là?
Il fait ce qu'il peut. Je veux simplement dire qu'on ne peut pas parler d'une organisation lointaine. L'ONU, c'est nous. La première phrase de la charte, de la préambule, c'est « We the people of the United Nations », nous, les peuples des Nations Unies. Donc les Nations Unies, c'est nous. Si les enfants meurent de faim,
que fait le HCR,
c'est notre responsabilité aussi, puisque nous ne nous levons pas pour changer ce monde. Le HCR, c'est le Haut Commissariat pour les réfugiés. Il s'occupe aujourd'hui du plus grand nombre de réfugiés qui a jamais existé sur la planète, 62 millions de personnes qui soit ont traversé une frontière, soit ont été déplacées à l'intérieur. L'Europe se conduit d'une façon lamentable, liquide, ses propres fondements éthiques en refusant le droit d'asile. Il y a des centaines de milliers de personnes qui butent sur les barbelés de l'Europe de l'Est. Il y a plus de 4000 qui sont morts depuis le 1er janvier en essayant de traverser la Méditerranée occidentale.
C'est pour ça que je vous demande que fait le HCR, parce que
HCR pourrait réguler, fait ce qu'il peut, mais face à l'égoïsme, à lamentable,
il ne fait rien, j'en sais plus.
Lamentable et égoïsme de la
Commission
de Bruxelles.
Il ne fait rien, il n'apparaît pas.
Non, il fait le maximum. Mais contre les truands qui sont au pouvoir en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, où ils refusent d'accepter des réfugiés, ou alors seulement, je dis pour les Slovaques, des catholiques, vous imaginez l'hypocrisie.
C'est vrai que vous attaquez...
Et Bruxelles, ce Juncker, ce président de la Commission...
Vous attaquez Juncker, vous attaquez beaucoup de gens comme ça. Je vous demande clairement, que fait le HCR aujourd'hui, concrètement? Quel est son rôle? Est-ce qu'il a encore un rôle? Est-il possible encore pour l'ONU d'agir sur la crise migratoire?
Le HCR finance pour des centaines de milliers de personnes en Turquie, en Grèce, par exemple, des camps d'accueil. Nourrit les gens, essaye d'apporter des soins médicaux, etc.
D'accord.
Fait le maximum. Le HCR, je les connais bien, vraiment.
Mais c'est pour ça que je vous demande.
Ils font le maximum. Mais ils ne peuvent pas imposer au gouvernement l'ouverture des frontières, le respect du droit d'asile. Le fait que le droit d'asile, qui est une conquête de civilisation, qui est un droit de l'homme universel, le droit d'être protégé, être accueilli hors de son pays, quand on est massacré dans son pays, ça pourrait arriver à tout le monde, eh bien ce droit d'asile qui est liquidé par les Européens aujourd'hui, le HCR ne peut pas imposer l'ouverture des frontières aux États nationaux. Vraiment, je les connais, je les vois vus sur le terrain, je les défends. Ils font au niveau des blessures, penser les blessures.
Donc c'est une aide plutôt gens, logistique, logistique,
mais
alimentaire,
contre l'égoïsme
médical.
D'État, seul nous, opinion publique,
ça on a compris, Jean Ziegler. Et c'est tout votre livre parce que vous attaquez énormément de gens comme ça qui, selon vous, ne sont pas à la hauteur.
Y compris le gouvernement français qui se tient lamentablement dans l'affaire des réfugiés.
Il y a aussi l'affaire. Les jeunes vous soutiennent, Jean Ziegler. Il y a aussi l'affaire des banques suisses et des biens juifs confiés à ces banques pendant la guerre. Vous vous êtes mis au service du Congrès juif mondial à l'époque pour que les biens soient restitués aux familles. Et votre pays, la Suisse, vous a alors considéré comme un traître. Vous avez été très controversé, vous l'êtes encore. Et quand vous avez fait un rapport sur le droit à l'alimentation dans les territoires occupés en Palestine, là, c'est le gouvernement israélien qui a voulu votre peau. Vous êtes tout le temps dans la compromission. Comment ça se passe pour vous?
Parce que la compromission, moi, je suis un petit bourgeois blanc avec un certain principe.
Mais vous êtes toujours
immuable. Et c'est les mêmes. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Suisse, l'or et les morts. Vous savez ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, durant les 12 ans d'horreur nazie. Eh bien, des familles, des entreprises, des communautés juives ont essayé dans les années 30 de mettre de l'argent à l'abri. C'était tout à fait normal et nécessaire dans les banques suisses. Ensuite est venu cet effroyable crime, pareil à nul autre, qui est la Shoah, l'Holocauste. Les banquiers suisses ont lu le journal et ont dit « Ah, nos clients ne reviennent plus ». Et après, 20 ans après la guerre, quand les archives sont enfin été ouvertes, le Congrès juif mondial a demandé la restitution de cet argent. Et les banquiers suisses ont refusé. Sauf qu'ils ont été mis au pied du mur par l'administration Clinton, a dit qu'aucun banquier suisse ne fera d'affaires aux États-Unis avant que vous n'ayez rendu le butin. Et j'avais témoigné, j'étais député à l'époque, j'avais témoigné devant le Sénat américain en faveur du Congrès mondial juif, ce qui m'a valu les accusations de traître, et j'en parle en détail
dans le livre. Exactement.
Dans le livre.
Et votre combat aussi pour voilà le droit à l'alimentation sur les territoires
et
occupés.
Et puis ensuite, j'ai été invité par l'Israël de faire un rapport, comme rapporteur spécial, c'était bien après, dans les territoires occupés, sur le droit à l'alimentation, qui n'est pas respecté par la puissance occupante. Je l'ai dit, et ça m'a valu, et ça me vaut jusqu'à maintenant, de la part de groupuscules israéliens, pas du peuple juif, de groupuscules israéliens, la diffamation la plus terrible dont je parle dans ce livre.
Exactement.
Et je veux mettre les choses un peu au point.
On va terminer avec un libraire qui a lu votre livre, Jean Ziegler. Annick Dor est en Belgique. Annick, c'est à vous l'honneur de conclure cette semaine.
Merci. Alors c'est vrai qu'une fois de plus, vous nous montrez, Monsieur Ziegler, que le monde bien va mal, mais qu'avec des gens de bonne volonté et une réforme de l'ONU, il y a moyen de remporter des victoires face à l'ignominie mondiale. Alors moi, j'ai été très impressionnée par votre courage. On sent que vous agissez vraiment pour la justice et pas selon un parti pris politique. Alors espérons que votre message et votre exemple soient entendus et que la société civile finalement se mette en marche et pèse dans les décisions du monde.
Voilà, la vie de nos libraires. Jean Ziegler, vous vous demandez comment vous avez tenu toutes ces années.
Je suis un privilégié parmi les privilégiés, comme vous. On a des métiers, j'étais député, j'ai des mandats à l'ONU, j'étais professeur, etc. Un privilège incroyable. Si je ne luttais pas pour ceux qui se font écraser dans la nuit, je ne pourrais plus me regarder dans le miroir.
Dara Benjelloun, le mot de la fin.
Jean Ziegler fait partie de cette catégorie de personnes comme René Dumont, Stéphane... Indignez-vous.
Stéphane Hessel,
toute cette génération. Et c'est un militant de tous. Moi, j'ai toujours connu militant. Parfois, il exagère un petit peu les chiffres. Mais il y a une chose. Alors, pour terminer sur une autre.
Non, mais on peut pas partir sur un autre débat.
Une autre un peu d'humour. Oui. Est-ce que, Jean, tu peux me donner l'adresse et le numéro de matricule du bus où il y a 85 personnes
les plus
immensément
riches du monde.
Ah oui?
Ah, bah oui.
Ils sont parfaits. Les truands qui dominent la planète.
Ah, ça, ils vous l'avez relancé.
Ah, non. On va être amis avec
eux. Mon livre s'appelle Chemin d'espérance.
Chemin d'espérance aux éditions du Seuil. Vous pouvez applaudir Jean Ziegler. Avec Tara Benjelloun. Merci beaucoup. Merci Nina Bouraoui. À très bientôt. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir aussi. Vous avez été merveilleux. Merci beaucoup. À très bientôt dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
À très bientôt pour le public, mais pour vous, voici un artiste francophone coup de projecteur avec un extrait du tout nouveau titre de la chanteuse canadienne Lisa Leblanc. Toute nouvelle chanson de Lisa Leblanc que vous pouvez retrouver sur internet sur les plateformes légales de téléchargement et d'écoute en ligne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon, avec Stéphane Desmond, Stéphane Touvenin et Dali Yaha. À la rédaction ici à Paris, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Felé avec Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Elput en Belgique et Sylvie Julien avec Jacqueline Castonguet au Canada. À la semaine prochaine sur votre radio francophone. Merci pour votre fidélité. Vous êtes, selon les dernières mesures d'audience, de plus en plus nombreux à nous écouter à travers le monde. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier et on vous remercie sincèrement pour votre confiance. Merci, bon week-end à tous. Merci à Radio France Fête le Livre. À bientôt. Salut.